L'atelier des médias.
Curieuse époque que la nôtre, une époque tiraillée sans cesse entre un optimisme sans bornes, incarné par un accès sans précédent à la connaissance, à l'information et à l'Internet en général. Et en même temps, une séquence de l'histoire où persistent des pratiques des plus obscures, le manque de transparence, la corruption, la multiplication des conflits et même la nomination d'un loup de Wall Street, un ancien de Goldman Sachs au trésor américain. Pourtant, quand on y regarde de plus près, il y a de quoi se dire que quelque chose est bien en train de se passer. Ce qu'on entend, c'est un reportage vidéo publié par Quartz sur sa page Facebook. Allez voir, c'est bluffant. Il s'agit du récit en images de la mobilisation des Sud-Coréens suite à ce qu'on a pu appeler le Choi Gate. Oui, Choi, c'est le nom de la conseillère de l'ombre de la présidente sud-coréenne, une conseillère un peu trop envahissante, visée par une enquête pour trafic d'influence et de corruption. Bref, 1,5 million de personnes, soit 3% des Sud-Coréens, sont descendus dans la rue contre contraignant la présidente sud-coréenne à envisager sa démission. On ne va pas se focaliser ici sur la Corée du Sud, mais cette effervescence, cette fièvre démocratique, on la retrouve un peu partout et on en parle souvent ici à l'atelier, on le partage régulièrement sur nos réseaux sociaux, alors voyez plutôt, en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, en Amérique et en Europe, on a comme l'impression que se développent un peu partout des vigies et des tours de contrôle citoyennes. Et c'est sans doute pour cette raison que les gouvernements et les institutions internationales ont commencé à céder sous la pression de ces groupes et à accepter de réfléchir à d'autres façons de gouverner.
L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Gouverner autrement, c'est en un certain sens l'un des enjeux de ce 4e sommet mondial du partenariat pour le gouvernement ouvert qui se tiendra à Paris la semaine prochaine. Et comme on n'a pas envie à l'atelier des médias d'aller voir sur place sans avoir préparé notre affaire, je vous propose cette semaine de vous livrer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'OpenGov et le gouvernement ouvert. Nous aurons donc en studio Clément Mabi qui est chercheur et membre du collectif Démocratie ouverte, Lucchesi, qui est directrice de la mission Etalab, et Valentin Chaput de Démocratie OS France et d'Open Source Politics. Après ça, promis, vous serez parés pour le sommet dont on reparlera la semaine prochaine, puisque nous serons sur place. Mais tout de suite, on appelle Aminata Thior, qui est mondo-blogueuse d'origine sénégalaise, qui revient d'ailleurs du Mondoblog Camp numéro 5 à Madagascar, et qui est à Abidjan dans le cadre du concours Afrique Innovation. Bonjour Aminata.
Bonjour Julien.
Alors Aminata, vous êtes mondo-blogueuse, vous êtes à Abidjan et vous êtes avec 7 autres équipes qui ont été sélectionnées dans le cadre du concours Afrique Innovation dont on a déjà parlé ici à l'antenne dans l'atelier des médias. Alors dites-nous tout, vous faites quoi à Abidjan, Aminata ?
Alors Julien, là actuellement effectivement nous sommes à Abidjan avec les 7 autres projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'Afrique Innovation. On est à Abidjan pour pitcher justement nos projets devant un parterre d'investisseurs et de partenaires en vue d'obtenir des financements, des partenariats dans la mise en place de nos médias.
Oui, un aspect important de cette session donc d'incubation et d'accompagnement de porteurs de projets numériques, c'est que vous êtes installé non pas dans une grande salle d'un hôtel international, mais vous êtes au cœur de l'Africa Web Festival. C'est quoi en fait l'Africa Web Festival, Aminata ?
Alors l'Africa Web Festival, c'est un événement qui a lieu tous les ans à Abidjan et qui regroupe des entrepreneurs, des experts du monde des médias, des investisseurs, des partenaires. Et le but, c'est d'échanger, de réseauter afin de trouver soit des financements, soit des partenaires afin de mettre en place son projet.
Et justement, mercredi, vous avez dû pitcher votre projet devant des investisseurs et ou des partenaires potentiels lors de cette initiative Afrique Innovation. Comment ça s'est passé ? Qui était dans le public et quels ont été les retours, Aminata ?
Alors, ça s'est bien passé. On avait un jury de qualité, on va dire, des représentants d'Orange Fab, des fonds d'investissement internationaux, des experts du numérique. Et du coup, les pitchs se sont bien passés. À la fin, en tout cas pour ma part, des investisseurs sont venus me voir, enfin des partenaires plutôt, sont venus me voir afin de travailler avec moi sur mon projet.
Et justement, rentrons dans le cœur de ce sujet et de ton projet. Il me semble qu'il s'agit d'un média qui est diffusé notamment via WhatsApp. Pouvez-vous nous en dire plus, Aminata ?
Alors, c'est bien cela. C'est un média qui s'appelle C'est Alma. C'est sur WhatsApp et ça allie information et données autour de la cosmétique au Sénégal. Alors, on connaît tous ces pages Facebook où les, enfin, sur le domaine de la beauté, hein, toujours, où les jeunes femmes sénégalaises arrivent et posent des questions du genre « Hello les filles, où est-ce que je peux trouver tel produit à Dakar ?» Et là, elles obtiennent 10 millions de réponses qui ne les aident pas forcément. Et nous, ce qu'on propose en fait, c'est au lieu que ces jeunes filles aillent poser leurs questions sur ces réseaux sociaux, bah, qu'elles viennent le faire sur notre média. Et grâce à notre réseau de dermatologues, nous leur fournissons des réponses précises, personnalisées et répondant à leurs besoins. Ça, c'est l'aspect information de notre média, mais aussi il y a l'aspect données. C'est-à-dire, grâce à toutes ces questions posées par ces jeunes filles, bah, nous avons l'ambition de créer du contenu et des données autour de la cosmétique au Sénégal. Voilà en gros le média. Pour un début, ce sera sur WhatsApp. Ensuite, nous allons migrer sur une plateforme web. Là, hier, à Abidjan, nous avons rencontré des gens qui étaient fortement intéressés, que ce soit des dermatologues ou des développeurs qui veulent nous aider à justement aller vers une plateforme web.
Aminata Thior, je rappelle que vous êtes à Abidjan dans le cadre de l'Africa Web Festival et surtout dans la dernière étape de ce programme qui s'appelle Afrique Innovation et dont on a déjà parlé sur l'antenne. Et les auditeurs peuvent retrouver votre blog à l'adresse suivante, leregarddeminatag.mondoblog.org. Merci Aminata.
Merci Julien.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? On commence avec un témoignage et une réflexion sur le data-colonialisme qui peut parfois entacher l'usage des technologies au service du développement. Et c'est sur la plateforme modelviewculture.com que j'ai pu lire ce récit évoquant les non-dits du tech for good, comme on dit parfois, ou pour le dire en français, l'usage des TIC pour répondre à des problématiques de terrain. L'auteur de ce billet s'interroge en particulier sur les méthodes employées par les acteurs du développement qui, sûrs de leur bon droit, font parfois fi d'un certain nombre de standards internationaux quand ils manipulent les données des autres. Voici pourquoi. Les acteurs du développement, que ce soit des opérateurs étatiques ou que ce soit de grandes ONG, poussent le plus souvent les acteurs des pays du Sud à partager sans modération leurs données. L'intention est louable, il s'agit de suivre par exemple le déroulement des élections, d'anticiper sur des risques environnementaux ou sanitaires, voire d'améliorer l'accès à des services publics. Bref, sur le fond, ça paraît très bien. Sauf qu'il n'est pas rare, a pu constater l'auteur, que les données soient collectées sans le consentement éclairé des populations concernées et les modalités de stockage, tout comme les questions de propriété de ces données, ne sont nullement encadrées. Et l'auteur de rappeler que dans n'importe quel pays du Nord, on ne se permettrait pas de procéder ainsi. En somme, je vous invite à lire ce billet plutôt bien documenté, qui part d'expériences de terrain bien réelles pour continuer de réfléchir aux meilleures modalités de construction de données au service du développement. Les autorités gambiennes, le jeudi 1er décembre, ont donc succombé elles aussi à la tentation de couper l'accès à Internet en ce jour d'élection. En Afrique, l'année 2016 a été particulièrement sombre pour les libertés numériques avec au moins 5 pays, donc la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon et l'Ouganda, qui ont restreint l'accès Internet lors de périodes électorales selon l'ONG Internet sans frontières. Eh bien, je profite de cette information pour alerter les auditeurs sur le fait qu'il est possible de soutenir les actions de la coalition d'ONG mobilisée par la campagne Keep It On ou Maintenez-le allumé. Cette campagne s'achève le 7 décembre avec la remise d'une pétition contre ces restrictions lors du forum de la gouvernance d'Internet qui se tiendra au Mexique la semaine prochaine. Et l'atelier tweet à l'instant des informations sur cette campagne Keep It On. L'Algérie resserre un peu plus l'étau autour des médias en ligne. Si les propriétaires des journaux électroniques veulent que leurs sites soient légaux vis-à-vis des lois algériennes, explique le site indépendant Algérie Focus, ces derniers devront impérativement les domicilier et les héberger en Algérie. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre algérien de la Communication cette semaine, en marge de l'inauguration du nouveau siège de la radio d'Oran. Forcément, ce genre de déclaration inquiète fortement la communauté des journalistes électroniques algériens. Vous allez comprendre pourquoi. En Algérie, c'est simple. Il n'existe qu'un seul hébergeur et cet hébergeur est public. Il s'agit de Seriste.dz. Ces locaux, d'ailleurs, sont situés juste à côté des locaux des services de renseignement. De quoi susciter, vous l'imaginez bien, la méfiance. Dès lors que c'est cet hébergeur public qui contrôle l'accès à Internet pour tous les médias électroniques algériens, quelles peuvent être les garanties de transparence pour la société civile ? Qui va me garantir que mes articles, quand ils gênent le pouvoir en place, ne vont pas être réécrits ou tout simplement supprimés ? M'a confié au téléphone Abdou Semar, journaliste à Algérie Focus et membre des Africtivistes. Il faut dire qu'en Algérie, en dépit du relativement faible taux de pénétration de l'Internet, les sites comme Algérie Focus commencent à peser du poids de leur audience dans les débats publics algériens. Avec 1,5 à 2 millions de lecteurs par mois et des vidéos qui peuvent atteindre les 500 000 vues, il est normal que les sites électroniques comme Algérie Focus s'inquiètent du sort de leurs données. Vous connaissez les usages, à l'atelier on tweet presque tout ce qu'on brève au micro, donc tous les liens sont à retrouver maintenant sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media. La tradition veut qu'au fronton de l'académie fondée à Athènes par Platon, il était écrit « Nul entre ici s'il n'est géomètre ». Alors que va-t-on voir gravé au fronton du Conseil économique, social et environnemental à Paris dans quelques jours à l'occasion du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert ? Nul entre ici s'il n'est branché données ouvertes et hackathon ? Ou alors nul entre ici s'il n'est câblé co-construction, pitch et data connexion ? Voire même nul entre ici s'il n'est initié au jargon diplomatico-politico-informatique. La question se pose parce que les 7, 8 et 9 décembre prochains se tiendra à Paris le 4e rendez-vous du genre et c'est un rendez-vous mondial. Les enjeux, vous pouvez l'imaginer, ne sont pas minces. Enfin, voici ce qu'on nous dit. 3000 représentants venus de plus de 70 pays y sont attendus, explique le blog de la mission Etalab chargé de copiloter l'événement. Je détaille. Chefs d'État et de gouvernement, ministres, agents publics, parlementaires, élus locaux et collectivités territoriales, représentants de la société civile et des centaines d'organisations internationales, entreprises et innovateurs numériques, développeurs, chercheurs, journalistes, se réuniront afin de partager leurs expériences et bonnes pratiques et de faire progresser l'agenda du gouvernement ouvert. Au passage, je profite de ce petit inventaire pour dire que l'atelier des médias y sera aussi pour enregistrer une émission, mais c'est une autre histoire. En tout cas, tout ceci donnerait presque le tournis tant le vocabulaire ordinaire et malmené. De loin, ça semble très technique, ça semble aride, voire assez loin de l'expérience ordinaire du citoyen lambda. Pour le dire autrement, l'un des enjeux du gouvernement ouvert, et je pense que personne ici autour de cette table ne s'y opposera, c'est de réinventer le fonctionnement de nos démocraties pour qu'il s'adapte au monde dans lequel nous entrons, et si possible en s'appuyant notamment sur ce que le numérique a changé dans l'accès à l'information et dans l'implication de communautés de contributeurs bénévoles. Mais comment impliquer précisément quand ça semble si compliqué, quand le vocabulaire impose un droit d'entrée non négligeable ? Je vous donne un exemple. OGP, PGO, OpenGov, gouvernement ouvert, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça sort ? Et peut-on seulement retracer la genèse de ces concepts-là ? Essayez d'ailleurs de taper OGP sur YouTube. Rien à voir avec le sommet de Paris. Essayez de taper OGP ou PGO sur Google. Eh bien, les trois premiers liens sont en anglais. Le quatrième, on trouve un lien sur le site modernisation.gouv.fr et en 5, on a OGP France, une PME qui depuis 40 ans fabrique des machines de mesure tridimensionnelle optique combinant contact et laser. Bref, essayez avec OpenGov, vous allez voir, on est toujours dans une situation d'opacité et d'incompréhension. En somme, le plus urgent, c'est de réussir à bien préparer le sommet, de soulever le capot de cette notion et de ces concepts pour être sûr que tout ce vocabulaire et tous ces éléments sont bien nécessaires pour repenser nos institutions. Bonjour Clément Mabi.
Bonjour.
Alors Clément Mabi, vous êtes chercheur, vous êtes maître de conférences à l'Université de Technologie de Compiègne et vous êtes même un chercheur engagé, hein, c'est pas un gros mot, puisque vous gravitez autour du collectif Démocratie Ouverte. Encore cette idée d'ouverture. Rappelez-nous Clément Mabi, Démocratie Ouverte, qu'est-ce que c'est ?
Alors Démocratie Ouverte, c'est un collectif qui essaye de rassembler un certain nombre d'initiatives qui ont pour point commun de chercher à innover en démocratie. Alors, prenons un peu de recul et revenons du coup sur le gouvernement ouvert. On va essayer d'avoir un regard un peu macro et je compte sur vous. Le gouvernement ouvert ou la démocratie ouverte, nous disent les Wikipédiens, vise à promouvoir la transparence, qui est en un certain sens le garant de la confiance entre citoyens et politiques, la participation citoyenne en incitant le gouvernement à consulter et à écouter les citoyens via justement des canaux de communication nouveaux qui peuvent être mis en place, et la collaboration avec toutes les composantes de la société civile. Est-ce que la sagesse des foules sur Wikipédia a vu juste en mettant en avant ces trois éléments, donc transparence, participation citoyenne et collaboration, Clément Mabi?
Alors ces trois éléments, donc participation, transparence et collaboration, sont ce qu'on appelle les trois piliers de l'open government ou le gouvernement ouvert. Donc qu'est-ce que c'est que le gouvernement ouvert? C'est ce qu'on appelle une doctrine de gouvernement. C'est-à-dire c'est une manière de concevoir la gouvernance. Et l'idée c'est de s'appuyer donc sur ces trois piliers. C'est-à-dire de favoriser l'implication des citoyens par la participation et en même temps en s'appuyant sur plus de transparence de l'action publique et en permettant une meilleure collaboration entre les différents services de l'État. Donc, derrière tous ces grands mots, l'idée, c'est de rendre plus fluide et plus interactive l'action publique en impliquant les citoyens grâce au numérique.
Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de recul parce que cette notion de gouvernement ouvert n'est pas neuve. Et vous écriviez dans un article publié dans la revue Mouvement que vous m'avez fait passer que cette notion s'inscrit dans une tradition d'accès à l'information qui remonte plutôt finalement à la Révolution française, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 15, écrit et stipule « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Donc le gouvernement ouvert, c'est tout sauf nouveau.
C'est tout sauf nouveau. En fait, on se rend compte que derrière l'effet de nouveauté, eh bien, ça s'inscrit dans une tradition qui remonte à loin et qui vient de chez nos voisins outre-Atlantique, des États-Unis. Alors, le point de départ, c'est cette culture de ce qu'ils appellent l'accountability, c'est-à-dire demander aux élus de rendre des comptes.
Alors, la redevabilité.
La redevabilité. Et ce qu'ils appellent la public scrutiny, c'est-à-dire la capacité des citoyens à surveiller les gouvernants. Donc c'est ce qu'on peut résumer par une culture du droit à savoir.
Alors c'est marrant, donc la Révolution française a mentionné ce droit d'accès à l'information et ce devoir de rendre des comptes, et c'est outre-Atlantique, donc après la Seconde Guerre mondiale et avant Internet, que ce concept en un certain sens s'est vraiment formulé.
Exactement, et il a pris corps à travers un certain nombre d'actes législatifs.
En 1966.
Parfaitement. Ce qu'ils appellent le Freedom of Information Act.
Traduction.
Donc, l'acte de liberté de l'information. Je ne sais pas si je l'ai traduit
droit
très bien.
Liberté droit d'accès, liberté dans l'accès à l'information.
En gros, c'est l'équivalent en France de notre loi CADA. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut demander accès aux documents qu'il concerne.
Alors, loi CADA, commission d'accès aux documents administratifs, donc 10 ans plus tard, 1976.
Exactement. On a copié, en fait, ce droit anglo-saxon. Et on voit que donc toute cette culture américaine du droit à savoir, eh bien, elle a rencontré une autre culture qui est plus neuve, qui est celle du numérique. Et là, on arrive sur cette idée d'open, où en fait, on se rend compte que autour du logiciel libre, autour de toutes ces communautés numériques, il y a une culture de l'open, de l'ouverture ou de la libération qui promeut un écosystème de réutilisateurs qui viennent participer, qui viennent co-construire. Et il y a une logique qui s'est dit, pourquoi pas appliquer ce principe à la politique, alors, à la démocratie.
Alors on vient de voir qu'on a une forme d'hybridation entre une tradition, on va dire continentale, européenne, et une influence américaine. Et là, à Paris, les 7, 8 et 9 décembre, on ne va pas seulement parler donc d'accès à l'information, on va parler, comme on le disait, de gouvernement ouvert. Et cette année, on fête les 5 ans du partenariat, je dis bien partenariat pour le gouvernement ouvert. D'ailleurs, on écoute.
It began 5 years ago with a simple idea. Since governments serve the people, they should be open to the people.
The strongest foundation for human progress lies in open economies, open societies, and in open governments.
L'alliance entre les gouvernements et la société civile est une nécessité.
8 governments working closely with 9 civil society organizations.
Alors après Obama, donc on a entendu François Hollande, l'alliance entre les gouvernements et les sociétés est une nécessité absolue. Clément Mabi, restez avec nous, on continue d'évoquer toutes ces questions autour du gouvernement ouvert, de ce que ça veut dire et de ce que ça peut changer pour les auditeurs. À tout de suite après le flash.
Écho d'ici.
Atelier des médias, deuxième partie.
En première partie, nous entendions Clément Mabie mettre en perspective la naissance de cette notion de gouvernement ouvert. Alors, Clément Mabie, à vous lire, on sent qu'il y a comme des mirages, ou il y a eu des mirages autour de l'open data. Ce qui a poussé finalement les gouvernements à ouvrir leurs données, ce n'est pas la recherche d'une meilleure gouvernance, c'est plutôt l'idée selon laquelle on avait affaire à un nouveau pétrole.
Alors, en fait, à un moment donné, on s'est dit au sein même des organisations, des institutions et des entreprises, il y avait une richesse qui était sous-exploitée. Et on s'est dit, en exploitant cette richesse, on va essayer d'améliorer mécaniquement l'action publique. Et l'idée est de dire, on va permettre de créer de la richesse, et en même temps, par effet d'entraînement, il va y avoir des bénéfices pour les citoyens.
Donc un enjeu démocratique et un enjeu économique, selon vous, Clément Mabie?
Exactement. Et tout l'enjeu, c'est de faire cohabiter les deux. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance à favoriser quand même le développement économique et à se dire les enjeux citoyens vont aller de soi, vont suivre. Or, on se rend compte que non. Pour que les enjeux citoyens se développent, ça ne va pas de soi. Il faut une impulsion, il faut organiser le parcours de ces données et leur réutilisation et les flécher vers des enjeux citoyens.
Alors justement, Clément Mabie, j'ai bien envie de poser la question à Laure Lucchesi qui est ici en studio avec nous. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors je suis ravi de vous avoir ici en studio puisque ça fait des mois qu'on se croise. Je pense par exemple au hackathon Hack Francophonie. Les internautes et auditeurs pourront retrouver d'ailleurs sur atelier.rfi.fr les références. Et ça fait des mois que vous êtes aux premières lignes finalement de la politique française en matière de libération des données ouvertes puisque vous dirigez la mission Etalab. Alors d'ailleurs, Etalab, start-up, open data, open gov, est-ce qu'on ne surjoue pas un peu le langage volontariste et technocentré des fois de la Silicon Valley, Laure Lucchesi?
Alors effectivement, il y a un vocabulaire qui est teinté de consonances anglo-saxonnes, mais comme l'a rappelé Clément, les concepts sont réellement là dans le droit et la tradition démocratique française. Etalab, c'est une mission qui dépend du Premier ministre et qui a vocation à travailler avec l'ensemble des ministères, des administrations, mais aussi de plus en plus avec les territoires, les collectivités territoriales, pour effectivement les aider à ouvrir, à partager les données qu'ils produisent. Ça, c'est le cœur de la mission historique d'Etalab. La mission a été créée en 2011. Donc, à travers cette action autour de l'ouverture des données, effectivement, pour plus de transparence, mais aussi pour stimuler l'innovation économique et sociale avec ces données, des innovateurs, des startups peuvent, ou des associations d'ailleurs, peuvent inventer aussi de nouvelles applications et de nouveaux services. Avec cet engagement dans cette ouverture des données, on en est venu petit à petit en fait à élargir effectivement notre activité et à aller vers un champ plus large qui est celui d'une action publique effectivement qui soit plus ouverte, plus transparente, plus participative.
Mais si on revient par exemple sur le cœur de métier initial d'Etalab pour être sûr que les auditeurs ont bien compris, vous par exemple, quand vous êtes arrivé à Etalab, est-ce que vous connaissiez les données ouvertes et dans quelle mesure vous étiez convaincu du fait qu'il y avait là une sorte de combat finalement à mener pour l'accès à l'information, Laure Lucchesi?
Alors moi, dans mes expériences précédentes, j'ai travaillé sur des projets de transformation numérique. Mais finalement, je me suis rendu compte que, quitte à transformer, à accompagner cette transformation numérique pour des entreprises, il était tout aussi intéressant de le faire pour mon pays, pour la France, et qu'il y avait effectivement tout un travail à mener au sein de l'administration pour que l'action publique, les décisions publiques soient plus ouvertes et effectivement que l'on sache accueillir aussi l'engagement citoyen qui aujourd'hui se démontre tous les jours avec Internet. De plus en plus de citoyens ont accès à l'information, à l'éducation, sont capables aussi de s'organiser pour résoudre des problèmes, pour entreprendre des actions nouvelles. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement pour l'État de savoir mobiliser cette intelligence collective, accueillir, faire une place dans son action à cette participation, ce désir d'engagement des citoyens.
Mais une question toute simple, l'open data, est-ce qu'il peut y avoir une politique de gauche et une politique de droite de l'open data? C'est pas évident comme ça. Quand on libère des données, on choisit des données. Quand on libère des données, on détermine une politique justement de libération des données. Comment vous concevez cet aspect-là, Laure Lucchesi, vous qui êtes aux manettes de la mission Etalab?
Alors, je suis pas sûre que le clivage gauche-droite soit forcément le plus intéressant et le plus représentatif. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les débats qui ont eu lieu autour du projet de loi pour une République numérique, qui a fait une grande place à l'Open Data, pour voir que c'était pas cet axe-là qui était le plus intéressant. Ce que l'on voit cependant, quand on se tourne aussi à l'international et que l'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, c'est qu'on peut avoir effectivement des politiques différentes, avec soit d'un côté une ouverture des données qui répond avant tout à des enjeux de transparence, de contrôle citoyen, voire aussi par endroits à un désengagement de l'État en disant on donne la place à la société civile pour s'emparer de certaines missions qui pouvaient correspondre à des projets de services publics, ou alors un open data, une ouverture des données qui met plus l'accent sur la collaboration, la co-construction et justement qui vise aussi à créer des biens communs numériques. Ce que l'on constate, c'est qu'on est plutôt en train d'évoluer justement vers des politiques qui mettent en avant effectivement cette contribution à l'action publique grâce à l'engagement des citoyens, à l'action, à l'intelligence collective.
Alors, je rappelle que nous sommes ici pour parler du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. Et revenons justement sur cette notion de partenariat, puisque c'est là l'un des enjeux des jours à venir. Et c'est quoi précisément l'enjeu quand on dit qu'il y a un partenariat? Il s'agit de faire en sorte de mutualiser et d'hybrider la tradition continentale européenne de redevabilité et une tradition plus anglo-saxonne. Laure Lucchesi, comment vous voyez cet enjeu?
Alors c'est intéressant effectivement de revenir sur l'historique du partenariat. 8 pays fondateurs se sont rassemblés en 2011 pour créer le partenariat pour un gouvernement ouvert. Mais l'idée, c'était aussi de mettre autour de la table, à part égale, y compris d'ailleurs dans les instances de gouvernance de ce partenariat, des organisations citoyennes, des associations de la société civile, donc à la fois des grosses ONG, mais aussi des acteurs plus locaux qui agissent au quotidien pour l'innovation démocratique, pour justement faire progresser cet agenda d'une action publique qui soit transparente et collaborative. Donc ça a été le pari du partenariat en 2011. Avec aussi l'idée que ce dialogue était vraiment très important entre les acteurs publics et la société civile, et que la société civile pouvait, à travers ce forum, pousser les gouvernements à prendre des engagements formels qui sont ancrés dans des plans d'action que chaque pays membre du partenariat prend pour 2 ans, pour justement faire progresser cet agenda.
Alors en 2011, on était quand même avant tout sur une approche plutôt anglo-saxonne finalement de ce partenariat. Aujourd'hui, c'est la France et c'est à Paris qu'on va accueillir cette 5e conférence. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'interprétation particulière des institutions françaises pour tout ce qui a trait au gouvernement ouvert, Laure Lucchesi?
Alors effectivement, la France n'était pas présente à l'origine du partenariat. Elle l'a rejoint en 2014 parce que la France avait aussi une vision, une tradition démocratique à partager.
Et puis surtout, il fallait pas perdre la main sur un des enjeux de transformation des démocraties, des institutions. Et il y a forcément un enjeu diplomatique derrière.
Bien sûr, c'est important aussi d'avoir des grands pays, de grandes démocraties qui soient présentes dans ce partenariat, avec aussi un réseau diplomatique, pour pouvoir animer aussi le dialogue et ces échanges internationaux, et également d'apprendre de ce que nos homologues aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Côte d'Ivoire pouvaient aussi nous apprendre, et même de ce que des mouvements citoyens activistes avait aussi à nous dire de ces nouveaux enjeux démocratiques.
On a quand même l'impression que l'OpenGov ou le gouvernement ouvert à la française, c'est en un certain sens l'autre nom de la réforme de l'État. Est-ce qu'on est vraiment en train de réinventer l'État en associant les citoyens, ou est-ce que c'est une nouvelle façon de nommer des réformes qui de toute façon sont en cours, Laure Lucchesi?
Il peut y avoir plusieurs axes dans les réformes de l'État. Donc, on a des réformes qui peuvent être très orientées sur l'efficacité de l'action publique, la réduction des dépenses. Mais effectivement, cette rénovation démocratique, cette nouvelle forme de conduire l'action publique, participe effectivement de la transformation qui est nécessaire des États, des administrations, pour que leur façon d'agir réponde effectivement aux attentes des citoyens et au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a à la fois de nouvelles opportunités, mais aussi des défis. Il va falloir inventer de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles sécurités à placer. Et l'idée, c'est aussi qu'on ne peut plus raisonner de façon purement verticale. Il y a vraiment une notion de réseau, de partage d'expérience, encore une fois d'intelligence collective, et le pari que l'administration doit savoir aussi attirer tous les talents et intégrer ces contributions-là pour résoudre les défis de la planète. Ça va de la lutte contre le changement climatique à la lutte contre la corruption, et ça peut aussi, ça doit s'aborder de façon globale, encore une fois en faisant place à toutes les contributions possibles.
Alors Laure Lucchesi, je rappelle que vous dirigez la mission Etalab et nous sommes réunis pour parler du 5e sommet mondial du partenariat pour le gouvernement ouvert. Pas évident de résumer les éléments, et je suis aussi avec donc Clément Mabi. Clément Mabi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros enjeu qui est celui donc de la traduction, et quand on traduit, on interprète. Donc vous le disiez tout à l'heure avec Open Data, données ouvertes, données libérées, données publiques, c'est quoi d'ailleurs votre parti pris en la matière ?
Ben mon parti pris, c'est justement que, avant, pour l'instant, je reste sur l'expression anglaise beaucoup, parce qu'il y a les différentes réalités qui cohabitent. Et sur le gouvernement ouvert, on voit bien que c'est la même chose. Parce qu'en fait, derrière cet enjeu d'un modèle à la française, hein, comme on aime bien le faire chez nous, et on voit bien que le contexte, il est marqué par trois grands éléments en France. C'est qu'il y a un discours qui est là aussi assez ancien sur la réforme de l'État.
Et ça fait longtemps. Tout à l'heure. Oui, tout à fait.
Il y a un discours aussi maintenant et des actions sur la prise en compte des potentialités du numérique, c'est-à-dire le numérique comme vecteur de transformation. Et il y a une culture en France, une institutionnalisation assez forte de la démocratie participative. Et c'est ces trois éléments qui ont finalement fait écho à ce concept anglo-saxon. Sauf que nous, on a moins été pioché du côté de la redevabilité, parce qu'on a quand même une culture représentative très ancrée, hein, et qui a du mal à faire une grosse place aux citoyens. Et c'est plutôt sur la logique de réforme de l'État où l'Open Gov a pu trouver de l'espace et a pu trouver des soutiens, avec cette idée que en réformant l'action publique, on va faire des économies d'échelle, et par effet d'entraînement, il va y avoir de nouveaux services publics qui vont être développés par les citoyens et qui vont pouvoir mettre à profit ces nouvelles opportunités.
En tout cas, sur la chaîne YouTube d'Etalab, donc de la mission qui est en charge de l'organisation notamment de cet événement, on voit que vous avez mis le paquet sur le soutien et le suivi de l'ouverture des données publiques dans la francophonie. Donc on parle de la Belgique, on parle du Canada, mais aussi évidemment de nombreux pays d'Afrique francophone. C'est donc un enjeu diplomatique important, on le disait, et on espère évidemment que les choses vont pouvoir bouger sur place. Je vous propose d'écouter un témoignage que l'on est allé chercher sur la chaîne YouTube d'Etalab.
Moi, c'est Malik Tabsoba de l'Agence nationale de promotion d'éthique du Burkina. Je suis le coordonnateur adjoint du projet Burkina Open Data Initiative. Nous avons débuté en 2013 et aujourd'hui, nous avons un portail où nous avons les données des différents départements ministériels, notamment l'éducation, l'agriculture et les données sur les élections et sur la santé. Nous avons aussi réaliser des applications qui permettent de démontrer l'importance de la publication des données. Et donc, comme application de démonstration, nous avons une application du nom de Nendo où nous écoulons nos données, qui permet de faire une cartographie des différentes structures éducatives du Burkina et de donner un certain nombre d'informations sur ces structures éducatives pour permettre aux différents acteurs de l'éducation de pouvoir prendre des décisions appropriées.
Le gouvernement ouvert, Laure Lucchesi, c'est donc un enjeu profondément démocratique, pas seulement en France, mais partout dans le monde et notamment dans l'espace francophone.
Bien sûr, l'exemple du Burkina Faso sur la transparence qui a été faite quasiment en temps réel sur les résultats des élections, cela vient d'être dit, on voit bien à quel point l'ouverture, le partage des données, leur mise à disposition en temps réel contribuent à stabiliser un certain nombre de processus démocratiques, à restaurer de la confiance. C'est le cas au Burkina Faso, mais c'est le cas dans tous les pays qui se sont engagés dans cette voie. Ouvrir et partager ces données, Effectivement, c'est une façon pour les administrations, pour l'État, de rendre des comptes sur ce qu'ils font. Donc, non seulement de donner de l'information, mais de donner cette information sous forme activable. Le fait que ce soit fait sous forme de données ouvertes, lisibles par des machines, c'est bien l'enjeu de l'open data. C'est aussi que ces données, des citoyens, des associations, puissent s'en emparer, les croiser, les analyser, les réinterpréter pour éventuellement réinterroger aussi ce qui est communiqué par le gouvernement, les administrations. Donc c'est bien un enjeu de stimulation de la démocratie.
Et de la société civile. Et c'est là que le sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert doit aussi être, en un certain sens, un rendez-vous possible et souhaitable avec tous ces acteurs. Et les gouvernements sont sous le regard des innovateurs démocratiques de tous horizons, comme on a pu le voir récemment dans l'atelier avec Elisa Lewis et Romain Slitin, que l'on entendait à l'occasion de la parution de leur livre « Le coup d'État citoyen ». Justement, j'ai le plaisir d'accueillir en studio un éminent représentant de Démocratie OS France. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Démocratie OS France, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, vous voyez, c'est pas facile à prononcer.
C'est vrai que c'est pas très simple tous ces mots, mais c'est Démocratie OS.
Pourquoi OS ?
Alors OS, il y a plusieurs sens, et d'ailleurs les fondateurs argentins de l'initiative n'ont pas toujours clarifié ces sens. OS, ça peut vouloir dire open source, donc là c'est le fait d'avoir du code informatique qui fait tourner les plateformes, qui est ouvert, libre, et donc aussi duplicable,
et réutilisable,
gratuitement, etc. Donc ça c'est le premier sens. OS, ça peut aussi vouloir dire operating system, donc c'est comme votre ordinateur, Windows, c'est
un logiciel
OS,
d'exploitation.
Un logiciel d'exploitation, voilà. Et enfin, ça peut être open society aussi. C'est une autre formule qui regroupe finalement toutes ces démarches de voilà, d'ouverture de la société, de la participation de la société civile, de la démarche d'open government, comme on a dit.
Est-ce que ça veut dire que pour Démocratie OS France, le gouvernement ouvert, c'est d'abord une approche des outils numériques et une certaine philosophie de ces outils, Valentin ?
Alors effectivement, c'est les deux. Et là, même si mon propos va se concentrer sur les outils, il faut aussi penser que ce n'est pas seulement les outils. On a beaucoup parlé de numérique, etc. Mais il y a aussi des initiatives citoyennes de la société civile qui essaient de repenser la démocratie en parallèle de ces outils. Et il y a une complémentarité à trouver. Alors côté outils, effectivement, derrière, il y a une philosophie particulière de la production de ces outils. On a parlé beaucoup de communauté, d'interdépendance, de participation, de collaboration, tout à l'heure dans les propos de Clément Mabi notamment. En fait, c'est vrai que au niveau de la production informatique, le code peut être produit en collaboration, c'est-à-dire que des développeurs en Argentine peuvent lancer un projet, c'est le cas de Démocratie OS, et puis une équipe en France peut prendre la succession, développer des modules supplémentaires, développer une francisation du logiciel, on en parlait avec l'enjeu de francophonie, et finalement, on travaille sur le même objet informatique et on bénéficie les uns des autres des avancées qui sont produites ici et là.
Alors vous faites écho justement à l'expérience argentine en la matière et à Pia Mancini qui disait d'ailleurs « Nous sommes des citoyens du 21e siècle faisant de notre mieux pour interagir avec des institutions conçues au 19e siècle et fondées sur des techniques d'information du 15e siècle ». Est-ce que l'enjeu est bien résumé ? Ça vous convient Valentin ?
Effectivement, c'est une formule qui marche très très bien. La technologie d'information du 15e siècle, c'est en l'occurrence l'imprimerie, le papier qui se diffuse. Et c'est vrai que quand on voit la manière dont fonctionnent nos institutions politiques, notamment le Parlement en France, mais partout, presque partout ailleurs. On est encore beaucoup sur un usage papier qui reste cloisonné au sein de l'institution, même si les informations sont disponibles aujourd'hui sur Internet, elles sont pas forcément exploitables, utilisables directement par les citoyens. Et d'une certaine manière, c'est vraiment sur des démarches très très ponctuelles que le citoyen est associé à la co-construction de la loi, à son évaluation aussi. Donc il y a des démarches qui sont menées aujourd'hui en France, mais elles sont encore un peu embryonnaires. Et c'est vrai que c'est de ce point-là qu'est partie l'initiative Démocratie OS en Argentine, avec là aussi un système qui était confronté à une certaine forme d'opacité, probablement de corruption aussi, et du coup la volonté de l'ouvrir et de permettre aux citoyens d'y rentrer, d'y participer.
Est-ce que Démocratie OS, c'est pas en un certain sens une proposition de la société civile pour réinventer le logiciel de la démocratie, Valentin Chaput ?
Effectivement, dans ce cas-là, on prend le sens d'operating system, effectivement, de système d'exploitation. Alors, c'est une solution parmi d'autres. Évidemment, il y a aujourd'hui ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une multitude de projets en France et à l'étranger, plus de 50 au moins alternatives, qui sont des plateformes de prise de décision. L'avantage et l'intérêt d'une plateforme comme Démocratie OS, c'est qu'effectivement, du fait qu'elle soit open source et qu'avec quelques étapes techniques qui ont été résumées en termes assez arides, via Virgile à l'instant, effectivement, un développeur peut accéder au code, peut déployer sa propre instance, donc c'est-à-dire créer son site et utiliser toute l'interface de Democracy OS, le mettre en ligne et du coup créer sa propre micro-démocratie finalement, et peut s'en servir comme ça. Et donc c'est le cas de certaines collectivités en France qui adoptent des plateformes comme Democracy OS pour entraîner des consultations finalement avec leurs citoyens. Mais c'est le cas aussi de collectifs qui peuvent s'organiser comme ça et débattre entre eux de leur prise de décision, de leur gouvernance.
Laure Lucchesi et Talab, bah, je vous voyais réagir.
Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que ce parallèle effectivement avec le logiciel et le logiciel libre, il est extrêmement intéressant pour comprendre justement ce que c'est que cette open government. C'est un peu comme si on soulevait aussi le capot de la voiture. Donc, on ouvre le logiciel de l'action publique. C'est-à-dire, on le donne à voir. Il est visible.
Ce qui est comprend, nouveau en soi.
Voilà, on comprend comment ça fonctionne. On comprend ce qui se passe. On comprend comment les administrations travaillent, comment les décisions sont prises. Donc, c'est cette ouverture où on donne à voir. Mais aussi, on a la possibilité de contribuer, de proposer des améliorations pour l'améliorer. Ça se passe effectivement avec justement les communautés qu'on a dans le logiciel libre. Donc, il y a aussi cette notion de capacité d'amélioration et de contribution. Et puis, on partage un bien commun. Et je crois que l'action publique, l'action des gouvernements, c'est avant tout, effectivement, ce bien commun.
J'allais vous poser la question, justement, Valentin Chaput, vous validez les propos de Laure Lucchesi ?
Oui, tout à fait. D'autant que, en fait, c'est vrai que ça fait à peu près un an que cette démarche, que ce sommet est annoncé. Donc, ça fait à peu près un an qu'on a commencé à travailler en partenariat, justement, en collaboration entre, d'un côté, l'institution, les institutions, et puis, de l'autre, la société civile dans toute sa diversité. On a été associés à donc, un certain nombre d'appels à projets, d'appels à projets et d'événements. Et parmi ces événements, très concrètement, alors c'est encore un mot un peu barbare, c'est des hackathons. Un marathon créatif, voilà, sur lequel pendant une journée, deux jours, on permet à finalement des projets de se mener, donc avec des acteurs très différents qui peuvent ne pas se connaître au départ, et sur la thématique du gouvernement ouvert. Du coup, on a des plateformes qui veulent mieux informer le citoyen, des plateformes d'évaluation de l'action publique, des plateformes de débat, de vote comme Democracy OS, des plateformes de cartographie collaborative d'un espace, d'un enjeu, etc. Et donc, on réunit des équipes pour, avec à la fois des techniciens, des designers pour rendre l'ergonomie la plus accessible possible, et puis des porteurs de projets, citoyens, des institutions. On réunit ces équipes sur des temps réguliers qui permettent de faire avancer toutes ces solutions, qui sont là aussi des logiciels libres, et qui permettent de rayonner à l'international, et d'associer finalement toute la pluralité des acteurs, qu'ils soient économiques, politiques ou citoyens.
Clément Mabie, toute cette harmonie autour du logiciel, de la démocratie et du partenariat pour le gouvernement ouvert, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça inspire aux chercheurs que vous êtes ?
Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de discours qui sont assez enthousiastes, mais concrètement, dans les actes, on est encore au début. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des tentatives, il y a une volonté, peut-être, mais concrètement, moi, je vois quand même trois grands points à souligner. Le premier, c'est qu'il faut faire attention à ne pas vouloir incarner la démocratie dans les outils. Pour le dire simplement, je ne pense pas qu'on puisse limiter la participation, limiter la politique à un outil. C'est un processus qui implique des gens.
Et donc,
une culture qu'il faut penser au-delà des outils. Il faut mettre les outils au service d'eux. Et à mon sens, ce n'est pas les outils qui font la politique. Premier point. Deuxième point, on voit bien que sur certains des grands piliers, je pense à la transparence, le bilan peut parfois être mitigé. Je ferai simplement pour les États-Unis, les révélations de Snowden nous montrent bien que les enjeux de transparence sont loin d'être, le combat est loin d'être gagné. Et troisième point, si on traduit l'OpenGov par le gouvernement ouvert, on voit bien que même s'il y a une volonté de co-construire, c'est compliqué que la collaboration, donc le troisième pilier, se fasse à égalité. Le risque, c'est toujours que la maîtrise reste très institutionnelle. Et donc, du coup, la collaboration, elle soit ce qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire pas vraiment à égalité. Et donc, que du coup, on trouve une place aux citoyens là où ils dérangent pas trop, finalement.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Valentin Chaput ?
Je pense que on est sur un terreau assez fertile en ce moment, parce que d'une part il y a une attente assez forte des citoyens, et d'autre part, en tout cas pour l'instant, il y a une réelle volonté de collaborer entre les institutions, donc Etalab, le gouvernement, mais aussi au niveau local. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de collectivités qui essayent de se transformer en utilisant de nouveaux outils, de nouvelles méthodes d'animation du débat public, parfois sans passer par les outils justement, et qu'il y a toute une réinvention qui est en cours. Le problème, c'est que on a tendance à voir évidemment la perspective d'ensemble et pas toutes ces petites initiatives qui vont mettre un petit peu de temps pour germer et prospérer.
Alors si on a envie justement de se sensibiliser à cette nouvelle culture démocratique, à ces nouveaux outils, à ces nouvelles méthodes, on parlait donc de ce sommet mondial pour le partenariat pour un gouvernement ouvert. Est-ce qu'on peut avoir deux, trois éléments factuels très rapides, Laure Lucchesi? Donc les dates 7, 8, 9 décembre. On
tout
peut retrouver
fait.
Les informations sur quel site?
Sommetpgo.org. Là, tout le programme est en ligne, donc des différentes séquences. Donc, on a vraiment une diversité d'événements avec des séquences plus institutionnelles qui réuniront une quinzaine de chefs d'État et puis tout ce que
vous avez... Et surtout la société civile.
Cité tout à l'heure, tout à fait, c'est totalement ouvert. Des ateliers, des conférences, des débats citoyens.
Et nous aurons une émission de l'atelier des médias qui sera enregistrée sur place. Laure Lucchesi, je rappelle que vous êtes la directrice de la mission Etala. Bon courage pour les préparatifs dans la dernière ligne droite. Merci.
Merci à vous.
Valentin Chaput, vous êtes l'un des membres actifs de Démocratie OS France et vous êtes également cofondateur d'une petite entreprise Open Source Politics. Merci.
Merci.
Clément Mabi, je crois savoir que vous écrivez en ce moment un livre sur le gouvernement ouvert. Donc l'appel est lancé à l'antenne si des éditeurs sont intéressés. Vous êtes chercheur et maître de conférence à l'Université de Technologie de Compiègne et membre du collectif Démocratie Ouverte. Merci.
Merci.
Vous pourrez retrouver toutes ces références sur atelier.rfi.fr. J'en profite pour dire aux auditeurs que la semaine prochaine, nous serons nous aussi sur place au Conseil économique, social et environnemental situé avenue d'Iéna à Paris pour enregistrer une émission qui promet d'être riche en retours d'expérience, notamment en provenance des pays du Sud. Nous serons sur l'espace Place to Democracy le 8 décembre et nous enregistrons à partir de 11h. Passez nous voir, faites-nous signe et il n'est pas impossible qu'on en profite pour proposer un ou deux Facebook Live au passage. Bref, le gouvernement ouvert, c'est aussi et plus que jamais une radio ouverte à tous les vents. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Constance Léon qui rejoint notre équipe ce mois-ci et nous en sommes très heureux, mais aussi Manon Mella, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation l'indispensable Simon De Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
L'Atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation. Appelez-nous et